Merci Antoine Denecher et bonsoir à tous. Alors il n'y a plus de carburant dans la petite voiture de Sur la route. Nous vous proposons une émission diffusée le 5 décembre dernier. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. On arrive dans combien de temps, Yvon, à Bordeaux ?
C'est long.
Mais tu sais que bientôt, via Bordeaux, on pourrait aller en Espagne. Mais si, c'est le prolongement de la ligne à grande vitesse qui passera par Dax pour aller ensuite à Bilbao. Oh ben, c'est bien. Alors tu sais, moi, quand on parle de la ligne à grande vitesse et tout ça, moi j'aime bien citer Alain. Non, pas ton pote Alain, le philosophe Alain. Oui, toi tu cites ta grand-mère, moi je cite Alain. Dans ses propos sur le bonheur. Attends, j'ai dans mon petit carnet. Alors, oui, il dit « Voilà bien de la science ». Bien des essais, bien des coups de marteau et de lime. Tout ça pourquoi ? Pour gagner peut-être un quart d'heure sur la durée du voyage. Et que feront-ils, les heureux voyageurs, de ce quart d'heure si chèrement acheté ? Bien, ils emploieront un quart d'heure avant le début ou après l'arrivée à expliquer que ce train met un quart d'heure de moins à faire le parcours. Tu sais combien de temps les voyageurs gagneront entre Bordeaux et Dax avec la ligne à grande vitesse, Yvon ? Ils gagneront une minute. Si, une minute ! Mais une minute, c'est même pas le temps qu'il faut pour citer Alain. Précision très importante pour une blonde. C'est pourtant, paraît-il, le meilleur argument de vente, gagner du temps sur un trajet. Rendre quelques précieuses minutes à des voyageurs qui n'auraient que faire de regarder la France défiler par la fenêtre, de traverser des forêts séculaires et des vignes ancestrales, des passagers tellement pressés, comme chacun sait, de rejoindre une réunion de travail. Ici, en Aquitaine, on prévoit de relier Bordeaux à Toulouse et à Dax à la plus grande vitesse possible, avec quelques minutes d'arrêt consenti à Montauban, Agen ou Mont-de-Marsan. Coût total de l'opération, 8 milliards d'euros au bas mot. Au sujet de ce GPSO, grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, la commission d'enquête publique a rendu son avis négatif. La Cour des comptes a publié son rapport, défavorable. Mais le gouvernement persiste dans ce remake improbable d'Il était une fois dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest en l'occurrence. Ce sont donc 327 km de lignes nouvelles qui devraient sortir de terre d'ici 2027. Bonsoir Christophe Bounot.
Bonsoir Julie.
Merci d'être avec nous dans les studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Vous êtes professeur d'histoire économique à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste des transports, en particulier les transports ferroviaires. Alors je disais, ces lignes devraient sortir de terre parce que ce n'est pas totalement acté. On attend encore l'avis du Conseil d'État. Parlons d'abord, Christophe Bounot, de Bordeaux-Toulouse, puisque c'est sur cette liaison qu'on a le plus d'informations aujourd'hui, que le projet est le plus abouti. Bordeaux-Toulouse, ça ne date pas d'hier, 1856, la première liaison. Alors, à l'époque, quel était l'argumentaire de ceux qui voulaient imposer la liaison Bordeaux-Toulouse ? Je dis imposer parce que je crois que l'opinion publique était déjà défavorable à l'époque.
En réalité, la liaison Bordeaux-Toulouse, c'est une liaison historique qui reprend le canal du Midi et qui reprend le canal des deux mers. Et c'est toute l'histoire du Grand Sud-Ouest, parce qu'on retrouve avec le GPSO le Grand Sud-Ouest, c'est toute l'histoire des Péraires. Mais c'est de toute façon toute l'histoire aussi de la rivalité entre les deux grandes métropoles du Sud-Ouest, que sont d'un côté Bordeaux et de l'autre Toulouse. Et en réalité, cette liaison transversale, elle a bénéficié d'une desserte tout à fait favorable à la fin du 19e et au début du 20e, tellement bien qu'au début du 20e, c'était une des deux transversales les plus rapides en France. Et
déjà.
Ensuite, de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, au fond, c'est un déclin tout à fait relatif. pour des raisons à la fois techniques, économiques et certainement politiques.
Et alors à l'époque, pourquoi est-ce qu'on voulait relier Bordeaux à Toulouse? En tout cas, comment on l'a expliqué à l'opinion publique? Pour voilà, juste pouvoir passer un week-end à Toulouse, ou c'était, on parlait de développement économique des deux villes?
Alors c'est toujours le même argument, repris par les politiques. La modernité, l'innovation, la desserte, le réseau, c'est le réseau technique, c'est le réseau social, c'est le réseau humain. Et on ne pouvait pas envisager qu'au-delà de Paris, les grandes métropoles régionales ne soient pas desservies entre elles pour le transport de marchandises, mais surtout pour le transport de passagers. Donc ce sont deux grandes métropoles régionales.
Alors 150 ans plus tard, un peu moins, quand les décideurs imaginent de faire rouler les trains deux fois plus vite, en vitesse de pointe, entre Bordeaux et Toulouse, et ce sur des lignes flambant neuves, ils pensent à quoi? Toujours ces mêmes arguments?
Ils pensent à ces mêmes arguments, mais pour Bordeaux-Toulouse, c'est au fond le retour, le renversement du bâton. Parce que quand même, l'électricité, c'est la fille du chemin de fer, et au XXe et au XXIe siècle, le TGV, c'est la grande icône de l'électricité à grande vitesse. Or, le tronçon Bordeaux-Montauban a été électrifié, le plus tard a été électrifié dans les années 70, en 1978, c'était donc une lacune. Donc au fond, vouloir unifier, vouloir accéder à ce standard haut de gamme, à cette icône de la modernité, à cette hyper bête humaine qu'est le TGV, c'est une révolution et c'est pas une révolution tranquille.
Et alors, pour gagner combien de temps sur un Bordeaux-Toulouse?
Alors, sur un Bordeaux-Toulouse, beaucoup plus que sur, effectivement, que sur la liaison avec Dax.
Alors, Dax, on a dit une minute, hein, mais alors, c'est vraiment alors, dans le pire des hypothèses.
Dans la pire des hypothèses. Mais pour Bordeaux-Toulouse, effectivement, et d'ailleurs, dans les rapports de la Cour des comptes, dans les évaluations, donc, de la SNCF, on peut dire que Bordeaux-Toulouse, au-delà de tous les arguments environnementaux, répond à un argument économique de relation d'abord pour Toulouse, pour un accès à la capitale, par la liaison à grande vitesse, puisque Toulouse, jusqu'à présent, est surtout dépendante de la liaison aérienne. Le trafic est dans la complémentarité, donc les hommes d'affaires, entre guillemets, au-delà de la visioconférence, utilisent effectivement la liaison aérienne. C'est quand même un gain, une rationalité, une rationalisation, puisque la liaison transversale Bordeaux, Montauban, Toulouse, Montpellier vers Marseille est totalement sacrifié. D'ailleurs, on préfère passer par la capitale.
Christophe Bounot, comment on décide d'un tracé?
Le tracé a déjà donné lieu parce qu'au fond, les questions sont imbriquées. Le tracé a été définitivement donc décidé il y a maintenant donc 2 ans, après des commissions d'enquête publique, une commission du débat public, où se manifestent ainsi toutes les parties prenantes, pour parler de façon prétentieuse en anglais, les célèbres stakeholders. Ces parties prenantes, à l'époque de la Compagnie du Midi, on ne les voyait pas. Donc aujourd'hui, ces débats publics prennent facilement 2 à 3 ans. Ce tracé fait forcément des mécontents.
Voilà, le plus possible, on essaye de s'éloigner des habitations pour éviter les expropriations qui coûtent cher. Voilà, ce sont des raisons financières, pas forcément humaines, bien que les maisons soient quasiment toujours achetées en deçà des prix du marché. Et puis on se paye quelques arbres, parce que finalement, sur une carte satellite, ça ne correspond à rien.
Dans une zone Natura 2000, on est dans une zone très humide. Hein. C'est un bassin de déversement naturel des hautes eaux du Ciron. Ce qui fait que quand le Ciron déborde vers le... En général, c'est la fin du printemps, le début du printemps, pardon. Tout ça, c'est rempli d'eau. Il y a un bassin de rétention qui fait à peu près 6 hectares et demi. Et toute l'année, comme vous le voyez, c'est en eau.
Ça sent bon dans vos forêts, Jacques, la campagne?
Ça sent bon, j'espère que ça continuera toujours à sentir bon. Alors, les arbres qui ont les pieds dans l'eau avec de grandes racines et qui développent plusieurs troncs sur la même souche, ce sont des aulnes glutineux. Outre les aulnes, on a des chênes sous lesquels poussent les cèpes, les fameux cèpes de Bordeaux. Et la troisième essence qu'on trouve, c'est le charme. Ici, il y a une palombière. Ça, c'est parce que, faut que je vous dise là, c'est mon père qui avait fait une palombière ici, parce qu'il avait acheté ce bois, parce que pour lui, c'était un marais. Et l'intérêt essentiel, c'était que c'était un marais giboyeux. Il venait y chasser le canard, il y chassait la bécasse et il avait installé une palombière. Bon, donc j'ai hérité de cette pièce de bois et la palombière, bien sûr, n'existe plus. Donc pour moi, ici, c'est un terrain de chasse aux champignons. Je ne suis pas chasseur. Par contre, la cueillette des cèpes, oui, ça m'intéresse.
Alors Jacques Lacampagne, on est donc à côté de cette vieille palombière. On est surtout, si on regardait une carte régionale et qu'on faisait un petit zoom, on est en plein cœur de ce triangle ferroviaire, c'est-à-dire cette zone où se croiseront, s'entremêleront les lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, Toulouse-Dax. On est en plein cœur ici de ce triangle ferroviaire et c'est chez vous.
Et c'est chez moi. Enfin, tout le triangle ne m'appartient pas parce que le triangle, alors les côtés du triangle, suivant comment on le mesure, les côtés font entre 4 et 5 km. Mais on pense qu'il y a 400 à 500 hectares de nature qui vont être prisonnières parce que c'est bien le terme de ce triangle puisque c'est des trouées de 85-90 mètres de large qui vont être faites avec la voie au milieu, les voies au milieu. Et des clôtures de chaque côté des voies pour ne pas que le gibier puisse venir percuter évidemment les trains qui circuleraient.
Donc si on essaye d'imaginer ce à quoi ça pourra ressembler, là on est en plein milieu d'une nature presque vierge.
Écoutez le silence.
On entend à peine l'autoroute A65 qu'on a pourtant traversée pour venir jusqu'ici.
Marqué, c'est normal qu'on l'entende pas, il n'y a pas de voiture.
On en a vu trois, vous avez dit, ah, embouteillage sur la 65.
Ouais.
Ça aussi, c'est un projet qu'on a imposé aux habitants de Langon et de toute cette agglomération. Mais vous n'étiez pas là à l'époque.
Alors, non, j'étais pas tout à fait arrivé. J'ai suivi ça d'un peu loin. Mais beaucoup d'habitants étaient vent debout contre ce projet. Mais c'est vrai que c'est assez, comme on dit maintenant, d'un vilain mot impactant pour... Pour nous habitants, pour nous forestiers, pour nous pêcheurs, chasseurs, et pour une utilité qui est vraiment marginale.
Donc votre combat aujourd'hui se porte pour un autre grand projet que vous jugez inutile, qui est donc cette ligne à grande vitesse. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que ce terrain sur lequel nous sommes aujourd'hui, ces forêts, seraient enclavées.
C'est un monde fermé parfait. Avec bien sûr quelques franchissements, parce qu'ils vont quand même être obligés de laisser les routes franchir les voies ferrées, les pistes forestières certaines. Je ne pense pas que tous les franchissements seront rétablis. Ben, du moins, il y en aura les principaux, ne serait-ce que pour la défense contre l'incendie, qui ici est un danger majeur. D'ailleurs, petite parenthèse, je me demande comment on va faire rouler des trains à 320 à l'heure sans produire d'étincelles. Parce que sinon, le massif... L'Andée va être incandescent. Hein.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas réglé le problème en envisageant de tout raser?
Je ne sais pas, j'espère que non, qu'il restera quelque chose une fois que Attila sera passé.
Alors le maître d'ouvrage, Réseau Ferré de France, dit que ces ouvrages, justement, seront très largement dimensionnés pour éviter d'avoir un impact sur le régime des eaux. Explique aussi que les zones humides détruites seront... compensée, reconstruite à hauteur de 200%.
On va être mieux après qu'avant. Non, mais ça, bon. Je ne suis pas obligé de les croire. Hein. Ça, c'est une idée abstraite qui jaillit de technocrates qui sont au-dessus de leur planche à dessin. Mais quand on est physiquement sur le terrain, on voit que c'est tout à fait bidonné, ça. C'est une zone, on y revient, c'est sévère, il y a des oiseaux, c'est la nature pure, absolue. Et on va avoir 5 viaducs ici autour. Vous voyez ces touffes là, ce sont des carex. Et les tortues du Ciron, les cistudes, viennent prendre leur bain du soleil là-dessus. On voit ces carex qui sont aplatis. C'est que les tortues sont venues s'étendre au soleil. Il y a une phase délicate, si jamais par malheur ce projet venait à être réalisé, c'est justement la phase de réalisation. Bon, parce qu'après, la phase d'exploitation, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a une résilience de la nature, il y a une résilience de la faune. Mais encore faut-il que tous les spécimens n'aient pas été détruits. Et justement, cette phase chantier est très destructrice pour la faune. C'est là qu'on risque d'avoir une perte qui peut aller jusqu'à l'extinction. Il faut voir, enfin, je ne sais pas, les gens qui ont été voir un peu la construction de la ligne Tours-Bordeaux ont une petite idée des méthodes employées. C'est des engins gigantesques qui sont très destructeurs pour l'environnement. Alors, j'en sais rien, personne ne le sait. Bon, RFF affirme le contraire, bien sûr. Chacun joue son jeu. Il y a une espèce de jeu de rôle aussi. Quand on lit leur dossier, chaque fois, il y a des impacts majeurs. Ils le reconnaissent. Mais les incidences sont faibles. Alors, impact majeur, incidence faible, moi, c'est vrai que je ne suis pas le seul. J'ai un peu de mal à comprendre. Mais faut leur faire confiance, non ?
Jacques Lacampagne, aujourd'hui, vous vous battez en tant que quoi ? En tant que propriétaire de ces arpents de bois, comme vous dites, en tant que militant de la cause écologique ou écologiste, vous vous battez en tant que décroissant ou en tout cas opposé à la vitesse, par exemple ?
Non, j'ai beaucoup utilisé le TGV. Dans ma vie professionnelle, je ne suis pas opposé au TGV, je suis opposé aux lignes nouvelles. C'est la TGV et la ligne nouvelle, c'est pas pareil. Après, l'argument premier qui fait que je me batte contre ce projet, c'est un élément tout à fait rationnel. Je pense qu'on arrive en butée du développement. Alors, je ne dis pas qu'il faut embrayer dans le sens de la décroissance, je ne crois absolument pas, mais je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait si on ne veut pas léguer un monde invivable aux générations futures. Alors, là aussi, ce qu'il va falloir peut-être réformer en premier, c'est le logiciel des politiques, parce qu'ils sont tous sur la même pensée unique de la phase d'industrialisation d'il y a une centaine d'années. Un mec comme Macron, il est vieux dans sa tête. Dans une enveloppe jeune. Il est vieux. Pour moi, les politiques, leur boulot essentiel, ce serait de préparer les gens à quelque chose de différent de maintenant. Or, ils ne le font pas. Ce qu'ils pensent, c'est perpétuer la trajectoire qui existe en ce moment. Je crois qu'ils sont mauvais et vieux dans leur tête. Il va falloir changer les logiciels. C'est pas possible.
Jacques Lacampagne, on écoute encore un peu le silence ? Sur la route des futures lignes à grande vitesse, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, nous sommes avec l'historien des transports Christophe Bounot. Vous avez quelques forêts, vous aussi, me disiez-vous, dans le sud Gironde.
Je n'ai plus quelques forêts, c'est effectivement mon père, c'est la tradition. Et je salue ici mon père précisément sur une carte à quelques kilomètres de l'intervenant précédent, donc à Giscos. Et à Giscos, entre la Palombière, entre effectivement la forêt, et il y a trois infrastructures. Il n'y a pas uniquement la LGV-TGV, il y a eu déjà l'autoroute, il y a également le réseau gazier. Donc c'est un triangle qui est saturé d'infrastructures, qui est saturé de réseaux, et à force d'écouter donc le silence, on écoute donc de plus en plus les différents trafics, et on écoute surtout les flux qui traversent donc cette zone.
Le bassin versant du Chiron a déjà versé son écho à la solidarité entre territoires, c'est l'un de ces arguments qu'on entend à tout bout de champ quand il s'agit de défendre ces nouvelles lignes à grande vitesse. Alors Jacques Lacampagne amorce un débat sociétal concernant le TGV, il dit, en parlant des politiques qui l'ont décidé, il dit ils sont vieux dans leur tête. Les décideurs d'aujourd'hui, Christophe Bounot, ils ont encore les rêves des Trente Glorieuses en fait, c'est ça ?
Ils ont les rêves de la haute croissance, que je préfère effectivement à Trente Glorieuses. Ils considèrent, et ça a été bien dit, que le développement, ça passe par les grands réseaux, ça passe par les monstres froids, ça passe par l'industrialisation, ça passe par toutes ces infrastructures qui sont porteuse d'industrialisation en amont et en aval, mais au fond, c'est strictement le même débat que Zola, donc la bête humaine, par rapport à des activités qui sont beaucoup plus dispersées, qui sont beaucoup moins concentrées. Et on retrouve ici, de toute façon, le syndrome NIMBY. Il ne faut pas construire sur ces différentes parcelles.
Pour autant, Christophe Bounon, on ne peut pas vous soupçonner d'être anti-TGV. On n'est plus du tout dans le même débat qu'à l'époque du début des années 80, la première ligne Paris-Lyon.
On n'est radicalement pas dans la même période, puisque la rationalité, la modernité et le développement portés réellement par les premières artères TGV n'a rien à voir en termes effectivement de rentabilité économique. Mais d'une part, il existe d'autres formes de modernité, il existe de l'intermodalité, il existe une économie numérique et il existe en même temps surtout une modernisation des infrastructures existantes, puisque en gagnant quelques kilomètres heure sur des infrastructures déjà existantes, on ne traumatise pas, on ne martyrise pas des espaces. Et on peut effectivement essayer de trouver un certain consensus, ce que certains appellent une certaine démocratie technique.
On va en parler des solutions alternatives. Est-ce que la durée d'un trajet, c'est encore un critère de choix pour le passager qui a beaucoup d'autres possibilités de voyage en fait, de disponibles ?
Alors, ce n'est pas un critère majeur, sauf dans les connexions à la centralisation parisienne, où effectivement, la LGV, donc Paris-Bordeaux par rapport aux arbitrages, par rapport aux va-et-vient, par rapport aux déplacements professionnels de ce qu'en sont qualifiés, donc les hauts cadres dynamiques, là, effectivement, il y a un jeu, il y a des arbitrages immobiliers, il y a une dynamique économique. Mais sur des trajets donc intermédiaires, gagner 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure ne correspond pas forcément à une vision du développement régional. La preuve, c'est que si on avait cette vision du développement régional, d'un côté, il n'y aurait pas la région, la nouvelle grande région sud-ouest atlantique, et de l'autre côté, il n'y aurait pas la région qui regroupe Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, si on voulait vraiment faire une région du Grand Sud-Ouest.
Et surtout, pour ce genre de questions, ce sont les habitants des régions qui ont les réponses à ces questions. De quoi rêvent-ils? De quoi ont-ils besoin? Et pour connaître les avis des uns et des autres, et comme ça se fait toujours pour ce type de projet, eh bien, des commissaires d'enquête publique ont consulté les habitants et les élus. C'était fin 2014. Et leurs conclusions en janvier sont défavorables aux deux lignes à grande vitesse. Alors, outre le fait que les impacts environnementaux n'ont pas été suffisamment pris en compte, la Commission déplore que les solutions alternatives que vous avez commencé à évoquer et qui ont été proposées par les opposants n'aient pas suffisamment été étudiées. Les Langonnais qui prennent le train ici de Nice Cassou.
La plupart des Langonnais, ils vont à Bordeaux tous les jours pour une bonne partie d'entre eux. Les lycéens pour se rendre dans les écoles ou les lycées leurs parents pour beaucoup pour leur travail. Nous avons fait à plusieurs reprises des rassemblements, des manifestations, et le point de départ, on avait choisi la gare de Langon. Et c'est aussi pour ça que je vous ai proposé de se retrouver ici, parce que nous sommes opposés au projet de ligne à grande vitesse, mais nous sommes pour la rénovation des voies existantes. Cette ligne-là, c'est une des lignes les plus utilisées en Aquitaine. Et c'est une des lignes où il y a le plus de problèmes, des problèmes récurrents, de trains supprimés, de retards, etc. quoi. Donc c'est en disant qu'il ne faut pas construire de LGV, nous disons qu'il faut mettre de l'énergie, de la compétence, de l'argent sur la rénovation des voies existantes. Et ce que disent tous les spécialistes des transports actuellement, c'est qu'on n'aura pas... L'État et Réseau Ferré de France n'a pas l'argent pour à la fois faire des lignes nouvelles qui sont extrêmement onéreuses et pour entretenir le réseau existant. Et de manière tout à fait schizophrénique, le gouvernement continue pour faire plaisir à quelques grands élus locaux et au lobby des BTP, continue à dire qu'on va poursuivre ces projets contre tous les avis et contre cette enquête publique assez extraordinaire qui a été d'une part très suivie. Il y a eu 14 000 personnes qui d'une manière ou d'une autre, soit en faisant 50 pages, soit en faisant une page, soit quelques lignes, soit en signant une pétition, ont exprimé leur position et donc à 93 ou 95% opposés. Ça montre aussi que sur ce dossier, les gens, il y avait une maturité des arguments. C'était pas « je ne veux pas que ça passe au bout de mon jardin », on était bien au-delà de ça. La commission l'a reconnu, hein, c'était sur l'ensemble du projet, de ses objectifs, c'était ça qui était contesté.
Alors qui sont ceux qui ont contribué justement? Qui sont ceux que vous avez vus dans les réunions publiques organisées? Alors pas toujours par Réseau Ferré de France, beaucoup aussi par votre association, la Coordination Vigilance LGV de Nice Cassou que vous présidez. Est-ce que vous aviez affaire à toujours les mêmes, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui toujours les plus vigilants, les plus citoyens, les plus informés?
Ce qui est certain, c'est que dès 2005, il y a eu une mobilisation très forte lors du débat public sur la Bordeaux-Toulouse, des habitants, des citoyens, mais aussi des élus. Parce qu'on nous parle sans arrêt des grands élus qui veulent le projet, mais ils sont quelques-uns. Mais les élus de terrain, ceux qui vraiment, ils étaient au premier rang des réunions avec l'écharpe et disant eux aussi qu'ils ne voulaient pas de ce projet. Les LGV, certains disent que ce sont des avions sur rail, c'est-à-dire que ça va très vite d'un endroit à un autre endroit, mais de grandes métropoles. Ce n'est pas un projet de desserte du territoire, au contraire, c'est un projet d'enclavement. Langon va se retrouver enclavé, parce que pour avoir les gains de temps promis...
On parle pour Bordeaux-Toulouse de 14 minutes de gagner au mieux, c'est ça?
Alors, c'est un peu plus, d'après les calculs de Réseau Ferré de France, sur la ligne nouvelle. Mais pour ça, il faut faire zéro arrêt. Donc pourquoi on fait des gares externes à Agen et à Montauban? Pour aller très vite, pour surtout pas perdre de temps à rentrer dans le centre-ville et s'arrêter. L'objectif, c'est de passer très très vite dans ces gares externes. Et puis de temps en temps, pour faire plaisir aux collectivités locales, qui de toute façon, on va leur demander de mettre la main à la poche. Donc il faut bien leur faire quelques dessertes au passage.
Alors la commission d'enquête publique a parlé a chiffré le coût des travaux pour les futures lignes à grande vitesse à quelques 8 milliards d'euros. La fourchette varie jusqu'à 12 selon certains. Votre projet à vous, il coûterait combien de réaménager ce qui existe, d'améliorer ce qui existe déjà?
La mise en valeur, l'aménagement des voies existantes, alors suivant sur Bordeaux-Toulouse par exemple, c'est autour de 2 milliards et demi, 3 milliards, c'est beaucoup moins élevé.
Voilà. Alors Denise Cassou, est-ce que vous avez, en tant que présidente de la coordination Vigilance LGV, pu présenter distinctement, posément, calmement, vos projets et vos arguments à Réseau Ferré de France, ex-RFF en tout cas, au maître d'œuvre?
Dès que cette étude a été faite, nos grands élus, au lieu de prendre ça en compte et de se dire « bon, je dois, en tant qu'élu, être soucieux des deniers publics », ils se sont dépêchés de la dénigrer et de la mettre sous le tapis. Et Alain Rousset, président du Conseil général, s'est toujours arrangé pour que ce soit impossible. Il dit oui, et il s'est arrangé pour en fait rendre impossible le fait que cette étude soit présentée. On est face à des élus qui sont hors sol. Loin, dans des fauteuils confortables, avec une nouée de courtisans, de conseillers en communication, etc. Et ils perdent complètement la notion des besoins réels des citoyens, des habitants.
Denise Cassou, certains habitants d'Agen ont appelé à la rescousse les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, de Sivens, de Roibon. Est-ce que les zadistes sont devenus le numéro vert de ceux qui ont besoin d'un coup de main face à ces élus hors sol, comme vous dites? Est-ce que c'est une démarche que vous allez entreprendre?
Je comprends que des personnes, à un moment donné, considèrent que ces modes d'action, les citoyens sont tellement méprisés et non écoutés, non respectés, et qu'ils cherchent d'autres moyens d'action. Et quand on parle de certains se plaignent des zadistes, moi je dis la violence, elle n'est pas de leur côté. Elle est du côté de cette faillite du fonctionnement démocratique. C'est une violence qui est énorme. Nous n'installerons pas, nous, association, une ZAD, mais je dis en Sud-Gironde, comme tout le long de la ligne, tous les éléments sont réunis pour qu'ils s'en installent.
Denise Cassou, le jour tombe sur la gare de Langon. Les Langonnais qui travaillent à Bordeaux vont rentrer à leur rythme à Langon. Tranquillement.
Oui, c'est bien que les Langonnais puissent aller en train dans des bonnes conditions tous les jours à Bordeaux ou ailleurs.
Christophe Bounot, réaménager les lignes qui existent déjà pour y faire circuler des trains à grande vitesse, et donc la proposition des opposants à ces nouvelles lignes à grande vitesse. Ces lignes qui existent déjà, elles ne sont pas a priori faites pour la vitesse. Alors concrètement, ça voudrait dire quoi de les réaménager ?
Ça voudrait dire de refaire des travaux à la fois donc, sur le ballast, sur les différentes installations techniques, de vérifier, donc d'améliorer donc le parc de matériel roulant, et en même temps surtout de favoriser les liaisons commerciales, et surtout donc de réaliser une meilleure desserte, une meilleure interconnexion, et de gagner en termes donc de trafic, de clientèle et de liaisons d'intermodalité avec tout simplement les transports également d'autobus, ou tout simplement également avec les parkings. Donc il faudrait une modernisation de ces infrastructures qui ont quand même été largement sacrifiées. Puisque la liaison, j'insiste là véritablement, la liaison Bordeaux-Toulouse et cette grande transversale a été totalement sacrifiée face à l'icône du TGV, qui est une icône absorbante par rapport à la centralité parisienne. Et on en arrive donc à cette catastrophe absolue que même pour un Bordelais, donc pour se rendre donc en Italie en dehors de la voiture et de l'avion, et pour un Toulousain, il faut véritablement passer par Paris. Donc c'est sacrifier les relations transversales et interrégionales.
Il y a eu des suppressions de services, de gares.
De toute façon, le maximum du réseau ferroviaire de la SNCF, c'est tout simplement à sa création, puisque, comme le rappelle, je fais partie d'une association d'histoire des chemins de fer qui a organisé avec Hubert Bonin un colloque il y a 2 ans donc, sur le chemin de fer Tours-Bordeaux. On a une régression de l'ouverture des lignes et d'une régression de la desserte continue. On a une rétraction du réseau, c'est-à-dire que le TGV absorbe les liaisons secondaires et même certaines liaisons principales. On a une rétraction permanente du kilométrage exploité, sauf quand certains conseils régionaux se saisissent de la question. Pour les TER, l'exemple de la Bretagne et l'Aquitaine essayent effectivement de favoriser soit ces TER, ces trains d'équilibre du territoire ou ces intercités où il y a effectivement beaucoup à faire. Et d'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes insiste sur la priorité.
La Cour des comptes qui avait déjà donc alerté dans son rapport de 2014, sur 6 liaisons à grande vitesse étudiées par la Cour, aucune n'avait atteint les objectifs de rentabilité annoncés. Alors, sur la question de la rentabilité, c'est un petit peu délicat parce que parfois, on parle de ces TGV qui ne seront pas rentables de toute façon parce qu'il n'y aura pas assez de passagers pour les prendre, et en même temps, on conteste le fait que la SNCF ferme des lignes qui ne sont plus rentables. Mais bon, bref, en tout cas, la Cour des comptes avait alerté dans ce rapport. Et surtout, elle disait que pour lancer les projets, les projections sur le nombre des futurs voyageurs étaient toujours gonflées et que les coûts étaient systématiquement sous-estimés de l'ordre de 17%.
L'histoire récente, montre que les coûts sont toujours sous-estimés et sous-estimés de façon conséquente la plupart du temps, c'est 40 ou 50%.
Donc là, 8 milliards pour les deux lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, ça ne veut pas dire grand-chose en fait.
Non. D'ailleurs, c'est déjà contesté pour 9 ou 10 milliards. Second élément, ça n'a rien à voir. On a fêté les 30 ans du TGV, un peu d'histoire et de chronologie. 1981, donc le TGV Paris-Lyon, donc les 30 ans, une grande messe. Mais la SNCF elle-même, dans sa réorganisation depuis 3 ans, partageant partiellement les résultats de la Cour des comptes, on ne peut pas dire que la contestation et le fait que l'État passe par-dessus l'avis négatif de la commission d'enquête publique publics, de débats publics dont j'ai amené ici quelques exemplaires, on ne peut pas dire que pour la SNCF elle-même, ce soit une bonne nouvelle. La SNCF préfère rentabiliser déjà ses propres artères existantes.
Les lignes qui existent déjà. D'ailleurs, il y a quand même une sorte de grand malentendu entre la SNCF et celui qui exploite le réseau, ex-réseau ferré de France, aujourd'hui SNCF Réseau. On n'a qu'à voir la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, la filiale de Vinci qui devrait exploiter le tronçon, prédit que déjà ce tronçon sera en faillite avant même d'avoir démarré, parce que la SNCF ne propose que 15 trains par jour, dit qu'elle ne pourra pas aller au-delà, parce qu'à chaque fois il faut payer un péage. Et donc là forcément, SNCF et Réseau Ferré de France sont en désaccord.
Alors c'est une négociation permanente, c'est du lobbying entre effectivement SNCF Mobilité, Guillaume Pépi et les entreprises de travaux publics, donc le groupe Vinci ou ça peut être dans d'autres circonstances, le groupe Eiffage, enfin on a donc cet affrontement et on ne peut pas dire que le partenariat public-privé qui a amené un tour de table 58 collectivités, certaines collectivités n'ayant pas voulu participer puisqu'elle n'en voyait pas donc l'intérêt direct, le financement donc n'est même pas bouclé. Et à long terme, l'endettement, on risque d'arriver à une situation aussi catastrophique que celle des autoroutes, puisque le rapport de la Cour des comptes, on peut faire une comparaison entre le rapport de la Cour des comptes sur le TGV et le rapport de la Cour des comptes sur donc la cession des autoroutes à des groupes privés.
Ces collectivités ou ces communes, enfin 58 collectivités, vous dites, concernées, impliquées dans le financement de la ligne à grande vitesse, elles font la grève du chéquier, comme on dit. Pourquoi ? Parce qu'elles estiment que le projet est inutilement cher et inutile tout court, ou parce qu'elles voudraient être desservies et qu'elles n'ont pas obtenu satisfaction ?
Vous avez tout dit, c'est la quadrature du cercle, parce que pour obtenir une rentabilité importante, il faut donc accélérer, ne desservir que les métropoles régionales, et inversement, les collectivités territoriales ne veulent, à juste titre, financer par rapport à leurs électeurs que si elles sont desservies. C'est toute la négociation actuelle pour des villes telles que Libourne, Angoulême, sur le nombre de dessertes quotidiennes, à quelles heures, avec quelle fréquence, effectivement. Et ce sont des négociations qui ne sont pas des négociations commerciales, ne sont pas des négociations citoyennes. On est loin du modèle de la société civile organisée, du magnifique débat démocratique, de la société dialogique qui est promue par l'ensemble des associations et des collectivités territoriales. On est tout simplement dans une négociation politique qui peut être politicienne, comme l'a d'ailleurs montré la nouvelle cartographie, et je dis bien pour cette liaison Grand Sud-Ouest Bordeaux-Toulouse, le fait que ce soit deux régions différentes, une région Aquitaine Sud-Ouest Atlantique, une région en fait Sud-Ouest Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, ne correspond absolument pas à des réalités économiques et sociales.
Alors à chaque fois qu'une collectivité annonce qu'elle ne paiera pas, alors je pense au président du Conseil Général de Lot-et-Garonne, le Conseil Général du Gers, bon voilà, à chaque fois l'État décide de prendre les sommes manquantes à sa charge. Mais jusqu'à quand est-ce qu'il pourra le faire ?
C'est bien entendu le contribuable. Il n'y a aucun doute que le partenariat public-privé pour les groupes privés est sans tomber dans un colbertisme excessif, dans une intervention de l'État qui ne peut plus se le permettre. Il est véritablement urgent, comme le dit la Cour des comptes, de faire un programme de modernisation section par section et en envisageant les complémentarités donc entre les réseaux, sans pour autant adopter le point de vue de chacune des parties prenantes.
Alors Christophe Bounon, on n'a pas alors rapidement évoqué la question de l'emploi, parce qu'il s'en trouve quand même certains pour justifier ce double projet par le simple fait qu'il doit créer de l'emploi. Ce sont les grands travaux. Est-ce qu'on a une idée de combien d'emplois ça peut créer, ce genre de projet sur plusieurs années ?
Alors, c'est certainement un des arguments les plus valables. En tant qu'historien économiste, je ne me risquerai pas à des chiffres, mais la dynamique de l'emploi, d'abord pour les grands travaux, pour les grands chantiers qui sont excessivement donc destructeurs, quand on voit le nombre d'entreprises, de filiales qui sont effectivement mobilisées, donc le nombre en même temps de constructions, d'aménagements, de haltes, il n'y a aucun doute que pour l'emploi, pour la modernisation et parce qu'il faut placer, par exemple pour Alstom, il faut continuer dans des négociations internationales, parce que la question du TGV, elle n'est pas régionale, elle n'est pas nationale, elle est internationale. Parce que certes, en Chine, il y a une progression donc du TGV, mais dans des pays comme l'Espagne, qui a le premier réseau de TGV européen, la rentabilité est absolument catastrophique. Donc, comme vous l'avez dit, le TGV n'est peut-être plus l'icône de la modernité. Il existe peut-être d'autres solutions de mobilité électrique.
Sur la question de l'emploi, je voudrais vous citer le maire de Bernos-Bollac, commune concernée par exemple, qui serait ravi de refaire son réseau d'eau et d'assainissement par des entreprises de BTP ou alors Bruxelles et la fibre optique, voilà, dit-il, qui pourrait créer de l'emploi. Voilà, donc il fait partie de ces élus qui sont consternés de la façon dont l'affaire est menée depuis le départ, sans que leur avis n'ait été pris en compte. Sur la manière de faire, il y aurait beaucoup à dire.
De la haie, les brumes se sont levées sur vos terrains, le terrain du château Le Tuquet.
Oui, en fait, voilà, Le Tuquet domine la vallée du Gâtemort et c'est ce très bel endroit, cet endroit bucolique et préservé avec sur le devant de la propriété le vignoble et à l'arrière ce grand parc avec sa pièce d'eau, son île et surtout en bas ces terrains humides protégée, zone Natura 2000, et les sources de Belfonds qui sont l'approvisionnement en eau de Bordeaux.
Alors on ne voit plus très clair puisque la nuit est tombée, mais la ligne à grande vitesse, elle doit passer où exactement là dans notre champ de vision est un peu bouché.
Donc en fait la ligne à grande vitesse, elle longe Le Tuquet sur toute sa longueur. En fait elle passe le long de la propriété et elle coupe la vigne, mais surtout pour pouvoir justement passer cette si belle vallée du Gâtemort, il va falloir construire un viaduc de 800 mètres de long à 14 mètres de haut.
On est ici dans les graves, vous produisez du rouge. Quelle surface de vigne est concernée ?
La surface de vigne concernée et la destruction réelle de vigne par la LGV, c'est 15 hectares. Mais le problème est complètement différent. Le problème, c'est la destruction du terroir, puisque déjà les terrains ont été gelés sur 500 mètres de large pour passer les engins et faire les travaux. Donc il n'y aura plus de vignes. Et après le passage des chantiers, il n'y aura plus de terroir. Et en fait, ce qui fait la magie d'un vin, c'est pas la qualité de son technicien, ce qui fait la magie d'un vin et la différence entre un vin bien fait et un grand vin, c'est le terroir. Et le terroir, c'est magique, parce que la probabilité que la Garonne se redéplace au même endroit, que les galets soient roulés de la même façon, que le soleil, que les successions climatiques soient pareilles, fait qu'on n'aura jamais, on ne saura jamais reconstruire, et à l'échelle de nos vies et à l'échelle de la planète, on ne pourra jamais refaire de terroir. On sait très bien que le terroir sera détruit pour toujours sur 500 mètres de large et que c'est une saignée dramatique dans les graves.
Est-ce que le maître d'ouvrage, est-ce que Réseau Ferré de France a essayé de vous rassurer à ce sujet ?
D'abord, très étonnamment, il n'avait pas conscience d'une notion de base qui est fondamentale, c'est la notion d'appellation d'origine contrôlée. Donc ils n'ont pas touché du doigt le problème du terroir, et après ils l'ont minimisé, puisqu'ils pensent vraiment, et peut-être de bonne foi, c'est dire leur niveau d'incompétence, qu'on pourra replanter de la vigne, que ces terrains vont nous être restitués et qu'on pourra replanter de la vigne.
Alors j'ai cru comprendre qu'ils avaient, si ce n'est essayé de vous convaincre, au moins de vous, peut-être de vous faire taire en vous disant que les camions iraient tout doucement, les tracteurs, que le viaduc serait paysager, donc marron, dans les tons de marron et vert, que ça détruirait pas le paysage.
Oui, et c'est même consigné dans le dossier de l'enquête publique, c'est assez étonnant, mais après, c'est un espèce de... Ils parlent un langage, une langue qu'ils sont seuls à parler, qu'ils comprennent. Il y a des tas de réunions de concertation où on fait semblant de vous écouter. Et en fait, ils continuent. C'est vraiment, quand on dit lancer comme un TGV, c'est vraiment ça. En fait, on a l'impression que la décision finale est prise et qu'on fait tout ce travail préalable parce qu'il est obligatoire et qu'on doit le faire, mais qu'il ne sert à rien. Parce que de toutes les façons, ils ont tous les arguments et ils font ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a pas de concertation avec Réseau Ferré de France, parce qu'en fait, eux, leur travail, c'est monter ce projet, le faire avancer, et toutes ces réunions, en fait, toute cette gabégie de temps, d'argent, ne sert à rien.
Est-ce que vous vous battez sur le même front que les producteurs de sauternes ?
Oui, il y a forcément une lutte commune. La leur est plus tardive, parce qu'en fait, ils ne sont pas impactés physiquement. Eux, c'est un autre impact, et c'est vrai qu'il est plus, moins matériel finalement, il est dramatique parce que la magie du Sauternes, c'est ce terroir merveilleux de Sauternes, mais c'est aussi ces brumes d'Issiron qui font que le botrytis se développe et qui font ces vins merveilleux et magiques. Donc voilà. Donc c'est vrai que si on détruit cet écoclimat, cet écosystème, c'est dramatique. Parce qu'à la rigueur, on peut se dire que peut-être que nous, on peut déplacer la vigne. Et c'est ce que se disent les gens. Réseau Ferré France, vous n'avez qu'à planter ailleurs. Mais ce qui est détruit pour toujours et irremplaçable. Mais eux, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui risque d'être détruit. Donc bien sûr qu'il y a une solidarité, bien sûr.
Alice Delahaye, vous, ça fait 10 ans que vous vous battez?
Oui. Ça fait 10 ans que, oui, de combat, de finalement de lutte, d'abord d'étonnement, parce que pourquoi un tracé aussi coûteux à l'endroit le plus haut de la région, pourquoi pas suivre l'autoroute. Après, c'est vrai que je quitte le domaine de protection de mon terroir, mais en tant que citoyen, quand la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, quand la Cour des comptes, quand la commission d'enquête d'utilité publique rend un avis défavorable, ce qui est rarissime, sur un projet parce que économiquement il n'est pas viable, je pense qu'en tant que citoyen, on doit s'interroger.
Est-ce que ça vous a posé des problèmes de vous inscrire en faux contre cette ligne à grande vitesse et de témoigner dans la presse notamment de vos craintes?
Non, parce qu'à un moment donné, il faut... Ou on a peur et on se cache et on se dit ben, ça passera quand ça passera, ou on se dit que finalement on veut un jour pas avoir honte et s'être battu. Et le Tuquet, c'est une propriété familiale. Mes parents ont 75 ans. C'est 50 ans de combat pour eux. Donc non, ça ne me pose pas de problème parce que, même si ça m'en a peut-être posé après sur... parce que j'ai peut-être des petits ennuis, mais non, il faut se battre. Il faut à un moment donné pas avoir peur.
Quels petits ennuis ça vous a occasionné?
Ben, un contrôle fiscal, des menaces, voilà, beaucoup de soucis. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent.
Là, on est vraiment dans « Il était une fois dans l'Ouest », Christophe Bounot, « Il était une fois dans le Sud-Ouest », les manières de faire.
Dans le Sud-Ouest, effectivement, et on a une opposition entre le débat démocratique qui est tout à fait instrumentalisé, parce que d'abord, c'est une des premières fois une commission de débat public, une enquête publique, statue sur un avis négatif. Donc on n'est plus sur le registre du despotisme éclairé des années 60-70. Mais aujourd'hui, on a quand même un front commun des différentes parties politiques, ce qui est tout à fait classique. On retrouve quand même une opposition entre les élus des régions et des métropoles qui sont pour ces infrastructures modernisatrices et les élus des territoires et des pays qui sont a priori contre. Mais pour conclure sur cet aspect, c'est toujours la représentation de la modernité. C'est toujours la représentation, la question des affiches ferroviaires qui représentaient l'icône de la vitesse ou les futuristes, donc avec Marinetti au début du XXe siècle. Mais on a ici un changement radical de cette perception, puisque c'est pareil pour les installations électriques. Pensons à cette icône de la modernité, l'affiche électorale de François Mitterrand en 1965, un président jeune pour une France moderne, où au premier plan, il y avait le pylône électrique. Désormais, le TGV n'est plus directement un argument électoral pour les territoires, pour les pays. C'est toujours un argument technocratique ou industriel.
C'est ce que le député socialiste de la Gironde, Gilles Savary, appelle un astre mort en parlant du TGV. Voilà, les opposants espèrent encore que le Conseil d'État leur donnera raison et que le gouvernement saura écouter cette énième voix discordante. Peut-être, on verra, le Conseil d'État qui a été saisi a priori et qui a donc quelques mois pour donner son avis. En attendant, la mise en service de Bordeaux-Toulouse est toujours prévue en 2024. Merci en tout cas. En tout cas, à vous, Christophe Bounot, d'avoir été avec nous. Alors, un livre est à paraître, un livre écrit par vous, de Paris à Bordeaux en
avec
train.
Avec Hubert Bonin.
Avec Hubert Bonin, aux éditions du Septentrion. Nous mettrons en ligne les références de vos ouvrages, ainsi que plusieurs liens qui peuvent donner aux auditeurs toutes les clés de compréhension de ce dossier, notamment le rapport de la commission d'enquête publique, qui est très lisible. Vous y trouverez aussi quelques photos réalisées sur place et que vous pouvez suivre chaque jour sur notre compte Instagram. Il faut chercher Julie Gacon, parce que sur la route, il y avait déjà beaucoup de... C'était pris. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Gironde pour son accueil. À la technique, c'était Étienne Jeudy.
La semaine prochaine, nous serons sur la route d'une cité en sol majeur. Le chef d'orchestre Philippe Puy et ses musiciens font résonner la symphonie numéro 2 de Beethoven dans les immeubles HLM de Saint-Nazaire. Ça s'appelle la Philharmonie des Deux Mondes, orchestre citoyen. Bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un Monde.